Il était une fois trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Non, non, Vincent, c'est nous qui t'avons engagé. Bonjour, nous, les drôles des dames.
Bonjour.
Bonjour.
Partons sur le terrain pour faire un travail d'information approfondie sur l'actualité de notre région et pays. Nous analysons, invitons et mettons en lumière également des nouvelles pistes pour une nouvelle ère qui s'annonce. Invitant à un débat contradictoire, pluraliste, avez-vous un projet de construction d'une nouvelle société? Merci de contacter Fréquence 7.
Alors oui, aujourd'hui on va parler un peu de l'éducation nationale. Alors, la rentrée 2023 dans les écoles publiques de l'Ardèche, le nombre d'élèves est en baisse. Il est passé de 21 542 à 21 303. Du coup, cet argument, qui est largement utilisé par l'inspecteur d'académie, lui permet d'annoncer la suppression de 8 postes de professeurs des écoles. Par exemple, à Désaigne, suppression d'une classe, ce qui fait qu'il reste 3 classes pour un effectif de 74 élèves. Mais d'autres suppressions ont eu lieu à Cruas, Arras, Saint-Just d'Ardèche, Saint-Laurent-du-Pape, Vaucance, L'Argentière, Saint-Péray. Et puis, une fermeture totale d'écoles à Aspergeoc, l'école de Lolagnier. Dans les collèges, les effectifs ne varient pas à la rentrée 2023. 10 961 élèves étaient annoncés. Le département de l'Ardèche possède 14 lycées privés d'enseignement général et 12 lycées publics. En ce qui concerne les lycées professionnels, 7 sont privés et 4 sont publics. Il y a 2 lycées agricoles privés et seulement un seul public. 7178 lycéens en tout, entre le privé et le public, pour l'enseignement général. Et un total de 3458 lycéens dans les lycées professionnels, tout confondus. Le budget du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse est le premier budget de l'État. Et il bénéficie dans le projet de loi finances 2024 d'une hausse historique de 3,9 milliards d'euros. C'est plus de 6,5%. C'est beaucoup d'argent. Et pourtant, on a l'impression que l'éducation nationale, tout comme dans la santé, est au bord du gouffre. Le président affirmait le 24 juillet 2023 qu'il y aurait à la rentrée un professeur devant chaque classe. Pourtant, aujourd'hui, cette promesse n'est toujours pas tenue. Florence est avec nous et ensemble nous allons essayer d'y voir plus clair dans la situation locale. Alors Florence, est-ce que tu peux te présenter? Tu travailles dans quel lycée et que penses-tu de cette affirmation « un professeur devant chaque classe » ?
Bonjour d'abord. Oui, donc je suis enseignante au lycée public Vincent d'Indy à Privas. J'enseigne la philosophie et je peux effectivement dire que l'affirmation qui consiste à dire un prof devant chaque classe est quand même largement erroné, puisque le manque de professeurs n'existe pas que dans le primaire, mais bel et bien aussi dans le secondaire. Par exemple, on a reçu des mails pour éventuellement voir si on n'avait pas des connaissances pour remplacer tel enseignant absent dans tel établissement des alentours. Donc tout se passe comme si il fallait que les établissements se débrouillent par eux-mêmes pour trouver leur enseignant. Donc ça, c'est déjà un premier argument qui montre que un prof devant chaque classe, c'est pas possible. Et en même temps, c'est la spécialité un petit peu d'ailleurs de la Macronie, en même temps, ils engagent des fermetures de classes et nous en sommes les premiers impactés, puisque cette année nous n'avons plus que 5 terminales générales au lieu de 6 terminales générales, ce qui fait que l'effectif est en hausse. Dorénavant, nous avons des classes de terminale de 36 élèves. Alors dans des cours comme la philosophie qui se veut quand même être une discipline d'échange, c'est compliqué quand on a 36 élèves. Et je mets de côté, évidemment, toutes les corrections qui sont à côté. qui se rajoutent et qui, du même coup, demandent du surplus dans le travail. Alors, on pourrait s'interroger sur le fait du manque des professeurs, puisque au niveau des concours, de moins en moins de jeunes s'engagent justement à le passer. Tout simplement parce que, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler un peu après, parce que la rémunération des enseignants n'est pas celle qu'elle devrait être. Hein. On est très très mal situé d'un point de vue de l'Europe sur la question des salaires. Et du coup, c'est un métier qui n'attire absolument plus.
On parlait du budget d'éducation nationale. On dit qu'il augmente. Est-ce que tu penses que ça va changer les choses, au local comme au national ? J'ai aussi entendu parler du pacte. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Alors oui, je peux effectivement expliquer ce qu'est le pacte. Il est vraisemblablement la raison pour laquelle justement il y a une augmentation du budget, qui donne donc l'illusion d'une augmentation de salaire des enseignants, sauf que c'est quelque chose qui se rajoute. Il aurait été préférable qu'on augmente ce qu'on appelle la grille indiciaire du corps enseignant, c'est-à-dire qu'on augmente dès le départ le salaire, mais ce que le ministère n'a pas fait. Alors, de quoi s'agit-il pour préciser un peu les choses concernant le pacte ? Il va être attribué pour plusieurs missions, soit pour des missions qui vont être organisées autour de la création de projets, alors soit autour de thématiques donc, qui sont posées par l'éducation nationale, sur les questions environnementales, sur le lien avec les classes dites engagées. Alors je mets entre parenthèses la question du service national universel, qui pourrait faire l'objet d'un long débat, hein, justement. Et ce pacte aussi, et c'est là-dessus moi que j'ai davantage envie de discuter, il est aussi mis en avant pour, je cite, « viser à réduire le nombre d'heures d'enseignement non assuré », c'est-à-dire qu'il s'agira d'assurer ce qu'on va appeler les remplacements à courte durée, les RCD. L'éducation nationale est une grande spécialiste d'acronymes, donc les RCD, ce sont les remplacements à courte durée. Alors, l'ensemble des professeurs et des personnels éducatifs, à l'exception des stagiaires, quand même, pourra contribuer au remplacement de courte durée. Et ce remplacement de courte durée, ce pacte-là, en fait, est le révélateur même d'une attaque frontale contre nos statuts. Alors, pour quelle raison ? Il suffit de regarder justement le décret sur l'organisation du remplacement de courte durée qui a été publié en plein mois d'août, histoire de ne pas s'apercevoir de ce qui se passe. Et il y a deux articles qui ont retenu mon attention. L'article 5, qui va préciser, alors je tiens à le lire, qui va préciser que les RCD, donc les remplacements à courte durée, sont prioritairement assurés sous la forme d'enseignement. Toutefois, pour assurer effectivement les heures prévues à l'emploi du temps des élèves, des séquences pédagogiques peuvent être organisées au moyen d'outils numériques. Ces séquences pédagogiques peuvent être encadrées par des assistants d'éducation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Traduction, analyse. Alors, premièrement, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, la fameuse phrase de Macron qui consiste à dire « un prof devant chaque classe », c'est complètement faux. De même qu'il avait promis le remplacement systématique des enseignants absents, c'est aussi faux. Il nous trompe pour quelle raison ? Tout simplement parce que, non seulement le pacte, et l'article le précise très clairement, le pacte ne sera pas du remplacement poste pour poste, c'est-à-dire, par exemple, un prof de lettres pourra être remplacé par un autre prof, mais pas forcément de lettres. Ça pourrait être un prof de maths, qui fera donc des maths, bien évidemment, et par conséquent, l'heure de français, elle est toujours perdue. Donc, l'idée de remplacement en tant que tel, déjà, c'est faux. Premièrement. Mais en plus, on apprend, d'où l'expression, là, au moyen d'outils numériques, on apprend qu'en guise de remplacement, les élèves pourront, par exemple, être mis devant une capsule du CNED. Le CNED, c'est le Centre National d'Enseignement à Distance, et qu'ils seront surveillés par les assistants d'éducation. Donc voilà les fameux, le fameux pacte et voilà le fameux contenu pardon, possible de ce pacte.
Et oui, et donc dans le pacte, j'avais espéré qu'il y ait aussi des soutiens aux élèves.
Alors ça, ce sera possible. Ça fait partie de, d'autres missions qui peuvent être attribuées effectivement pour assurer du soutien scolaire. En particulier... là, pour le coup, il y a un engagement qui a été fait auprès des séries professionnelles. D'accord. Donc, ça, ce sera possible. Là, j'ai vraiment mis l'accent donc, sur le pacte qui concerne le remplacement à courte durée pour montrer, en fait, le discours de communication du gouvernement qui consiste à faire croire que, dorénavant, toutes les heures perdues seraient assurées. Alors, en plus, faut-il considérer quelque chose de négatif à un enseignant qui, effectivement, n'est pas présent devant sa classe parce que, précisément, il va être formé pour et dans sa discipline ? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Donc, pourquoi faudrait-il que, ce jour-là, l'enseignant soit remplacé ? Mais pour en revenir donc, à mon remplacement de courte durée, y a quand même une volonté de simplement faire du bricolage, puisque on pourra donc même être susceptible d'appeler tous les AED, et les AED... Donc les assistants d'éducation travaillent pour la vie scolaire et ils ont déjà un travail de dingue, pour reprendre une expression bien connue, et ils sont souvent très mal rémunérés. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir cette charge-là en plus. Et du même coup, c'est mépriser les conditions de travail de l'ensemble des personnels. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui pose problème. Et le deuxième article, et je m'arrêterai là-dessus, le deuxième article de ce remplacement de courte durée précise que les chefs d'établissement demanderont aux enseignants volontaires qui vont signer ce pacte d'assurer une lettre de mission, de faire une lettre de mission, dans laquelle ils devront, les enseignants, ils devront fixer au moins une heure dans la semaine durant lesquelles ils pourront être appelés. C'est-à-dire que, par exemple, si un collègue ne travaille pas à tel moment, eh bien, il pourra dire « je me rends disponible pour faire un remplacement ». Donc, il y a une forme d'astreinte qui met à mal la liberté personnelle des personnels, justement. Donc, tout se passe comme si... on ajoute en fait du travail. Alors on fait croire que finalement les enseignants sont augmentés, mais en réalité on ajoute du travail à ce qu'ils font déjà, et donc il est juste normal qu'ils soient rémunérés. Tout travail mérite salaire. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne travaillons toujours pas gratuitement.
Et à ce stade, donc, je pense à tous les élèves. Qu'est-ce que ça leur apporte, cette augmentation de budget ? Et je pense notamment, par exemple, au programme, mais aussi à Parcoursup. Tu peux nous en parler ?
Oui, alors très rapidement, donc, l'augmentation du budget donc, qui porte sur ces fameux pactes, si ces pactes-là donc, sont bien utilisés, comme tu l'évoquais tout à l'heure, pour les cours de soutien, pour les aides individualisées pour les élèves qui sont les plus en difficulté, ça c'est quelque chose d'extrêmement positif. De même pour l'engagement dans certains projets. Ça va permettre effectivement de construire et de donner la parole et de permettre des échanges et de faire autre chose que du contenu strictement disciplinaire pour les élèves. Et ça peut être aussi une bonne chose. Alors Parcoursup, c'est encore tout à fait autre chose. Parcoursup est une plateforme qui existe depuis quelques années déjà et qui succède une autre plateforme qui s'appelait APB, application post-baccalauréat. Et en fait, Parcoursup, c'est quelque chose qui finalement met un terme, en quelque sorte, à la notion même de baccalauréat, puisque il s'agit pour les élèves, dès qu'ils arrivent en seconde, en fait, tout se passe comme s'ils rentraient dans l'ère du post-baccalauréat, puisqu'il faut qu'ils aient déjà déterminé précisément les enseignements de spécialité qu'ils veulent faire en fonction des études post-baccalauréat qu'ils veulent faire. Ils doivent rédiger des lettres de motivation, ce qui est totalement absurde, parce qu'on a l'impression qu'ils font un CV, comme s'ils allaient être dans un emploi. Or, c'est justement pas le cas. Et donc, du coup, le Parcoursup met en place l'idée d'une méritocratie, ouais. Puisque c'est tellement stressant pour les élèves que de plus en plus d'élèves se tournent vers le privé. Or, le privé est excessivement cher. Et donc, du coup, les élèves, pour être moins stressés, vont partir dans le privé. Pour vous donner quelques chiffres, et je terminerai là-dessus, en 2022, nombreux ont été les néo-bacheliers qui n'ont pas obtenu de place, puisqu'ils sont 138 000 néo-bacheliers, donc qui n'ont pas obtenu de place dans des universités, et qui, du même coup, se retrouvent un petit peu hors parcours, si ce n'est qu'ils doivent attendre, justement, le mois de septembre, pour éventuellement qu'on leur propose quelque chose. Et comme on n'a jamais pris les choses sur du long terme, on n'a jamais construit d'université, alors, dans les disciplines à flux tendu, telles que, par exemple, les études de médecine, où on a quand même fini par se reconnaître qu'on a des besoins, eh bien, par exemple, il y a des étudiants en première année qui ont tous leurs cours en distanciel. C'est le cas à l'université de médecine Paris-Est-Créteil. Donc, à des inégalités territoriales s'ajoutent d'autres inégalités, parce que pourquoi prendre un appartement quand je dois suivre des cours à distanciel. Et pourtant, ils doivent quand même être sur place, puisque une fois par semaine, ils devront quand même aller à l'université pour échanger avec les enseignants.
Très bien. Merci, Florence.
Boîte à outils. Boîte à outils. Boîte à outils. Boîte à outils.
Alors, en cas de litige, vous devez faire une première démarche auprès de l'établissement concerné ou du service qui a pris la décision. Lorsque le désaccord persiste, vous pouvez faire appel à un médiateur. Il existe un médiateur national et des médiateurs académiques. Si vous êtes un usager, un parent d'élève, un élève, étudiant, adulte ou en formation, si vous êtes un personnel de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, tout personnel enseignant, peuvent donc voir avec pour l'Académie de Grenoble, vous pouvez donc contacter le médiateur par courrier électronique à l'adresse ou encore par courrier simple par voie postale. Vous trouverez tous les renseignements si vous tapez médiateur sur le site de l'Académie de Grenoble, ac-grenoble.fr.
Et je voulais rappeler aussi à tous les lycéens et les parents de lycéens qui nous écoutent, vous avez des droits, vous pouvez être défendu. Et les syndicats, ça ne commence pas que au niveau des études supérieures, ça existe dès le secondaire. Il y a trois syndicats aujourd'hui qui existent, le MNL, la Voie lycéenne et la FIDL. Donc syndiquez-vous et défendez vos droits, c'est important.
Oui, allô, bonjour. Centre hospitalier de Lyon à l'appareil. Voilà, on essaie de vous contacter pour vous annoncer que c'est terminé. Toutes nos condoléances. Voilà, si vous pouvez nous recontacter pour qu'on puisse vous expliquer les démarches à suivre. Voilà, bonne fin de journée. Au revoir.
Dimanche soir, 20h30, on m'appelle et on me dit que c'est fini. Je la reverrai plus. Mon monde s'écroule. À quoi bon vivre sans elle ? Je décide de tout envoyer valser, plus envie de manger, comme une envie de crever. Alors je pars, je prends la route, direction la déroute. Je m'arrête près d'une falaise, j'ai envie de sauter, de m'évader. Ça va servir à quoi, hein? Même ta mort, tu vas la rater. Vas-y, respire, allez, comme ça. Voilà. Alors sur ce bord de falaise, j'ai pris une inspiration profonde. Et je me suis fait une promesse à moi-même. Continue à célébrer chaque jour comme un cadeau. À partager des moments avec mes amis. Et savourer la beauté de la nature qui nous entoure. Trouver la joie dans chaque instant, en vivant pleinement et en appréciant les petites merveilles de la vie. Alors si vous aussi, vous êtes en détresse, et si vous avez des pensées suicidaires, Si vous voulez être, si vous voulez aider une personne en souffrance, vous pouvez contacter le numéro national de prévention suicide, le 3114. Le 3114 est accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement et en France entière. Un professionnel de soins spécifiquement formé à la prévention du suicide sera à votre écoute. Et il y a aussi le site internet 3114.fr. Sur ce site, vous trouverez des ressources pour mieux comprendre la crise suicidaire et des conseils pour la surmonter. Ne restez pas seul, aidez-vous.
Au courant?
Ah non? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
C'est dans les tuyaux. Je commence par les bonnes nouvelles. Il y en a moins que les mauvaises. La justice annule les projets de 15 mégabassines en Nouvelle-Aquitaine, 6 mégabassines annulées dans la Vienne et 2 en Poitou-Charentes. À la Clusaz, le Conseil d'État interdit le déboisement de la montagne. Le projet était d'installer des canons à neige. Une espèce de chauve-souris à grandes oreilles réapparaît après plus de 100 ans d'absence. Les mauvaises nouvelles. En ce qui concerne la 69, le 13 octobre, l'État reste sourd à la mobilisation des citoyens. Ni moratoire, ni suspension. L'ultime réunion tourne court. Les abattages d'arbres centenaires vont reprendre et les travaux iront jusqu'au bout. Le 24 octobre, les Islandaises ont cessé le travail pour dénoncer les inégalités salariales, les violences sexistes et sexuelles. La première ministre a annoncé sa participation au mouvement. J'aimerais bien qu'on voit ça en France. À Strasbourg, un bar affiche un message dans les toilettes femmes. Si tu ne te sens pas en sécurité, demande un mademoiselle au personnel du bar. Ils sauront que tu as besoin d'aide, te mettront en sécurité le temps d'appeler un taxi ou en faisant intervenir un agent de sécurité. Répression. La France, un des rares pays européens à autoriser le LBD, alors que les règles d'engagement de cette arme létale demandent une distance de 25 à 50 mètres, le ministre de l'Intérieur vient d'autoriser la distance de 10 à 3 mètres. C'est criminel. Les gendarmes se sont déclarés inquiets, c'est dire. La seule réponse d'Elisabeth Borne aux révoltes urbaines de cet été, révolte née juste après l'assassinat de Naël, nous allons multiplier par 5 l'amende pour non-respect du couvre-feu en la portant à 750 euros. C'est sa façon de répondre aux inégalités sociales. Enfin, à l'Assemblée nationale, le 15e 49-3 en un an. Vive la démocratie en Macronie.
En ce moment, on entend beaucoup parler de la guerre entre le Hamas et Israël. Depuis le 7 octobre 2023 et le début de la guerre, il y a eu 1,4 million de Palestiniens déplacés à l'intérieur de la bande de Gaza. 9 770 morts, en majorité des civils, dont 4 800 enfants. Côté Israël, 1 400 personnes ont été tuées, majoritairement des civils, le 7 octobre. Les guerres et les conflits perdurent en 2023. Les civils touchés, blessés, déplacés ou tués sont nombreux. Il n'y a malheureusement pas que la guerre israélo-palestinienne. Dans le monde, c'est 114 millions de personnes qui sont actuellement déplacées de force à cause de la violence, des persécutions et des violations des droits humains. Nombreux sont les pays concernés par des conflits ou même des crises, et je ne les citerai pas tous. Invasion russe sur l'Ukraine, des conflits dans le Haut-Karabakh, le Kirghizistan, le Tadjikistan, Myanmar, où la population birmane est confrontée à une crise politique, humanitaire et des droits de l'homme. Il y a aussi des problèmes en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, au Proche-Orient, en République démocratique du Congo, où une personne sur quatre a besoin d'une aide alimentaire. Des épidémies très graves, rougeole, fièvre jaune, paludisme, choléra, le Sahel, le Liban, la Syrie, avec plus de 11 ans de guerre, le Yémen, le Sud-Soudan, le Nigeria, l'Afghanistan, Haïti, et la pauvreté, les violences, les épidémies et les gangs armés. Des communautés entières obligées de fuir. Des civils qui subissent l'innommable. Nous avons une pensée pour toutes ces personnes civiles. Tous ces enfants qui vivent dans un enfer continuel.
Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
Oh.
Là, tout de suite, une citation de Paul Valéry me vient à l'esprit. La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas.
Ce mois d'octobre a été riche en découvertes entre cinéma, spectacle et musique. J'ai été servi. C'est parti, on commence maintenant. Fred Blin, a-t-on toujours raison? Which are you? Drôle de type qui débarque en sabots, perruque Louis XIV de travers, maquillage de clown et veste fermée par un cintre. Il prévient d'emblée qu'il y aura des longueurs et beaucoup d'à peu près. Le meilleur metteur en scène l'a lâché et refuse que son nom soit sur l'affiche. Au cours de cette irrésistible seule en scène, Fred devient un personnage de tragédie en travesti. Esquisse piteusement, pas de danse et numéro de cirque. Surtout, il s'arrête souvent pour demander l'heure au public et combien de temps il lui reste pour finir. Avec des airs de cabot à la ramasse, Fred Blin fait prendre conscience, comme rarement, de la spécificité de son art, du temps de la représentation, de ses dangers, de son pathétique et de sa splendeur. Et il est à hurler de rire. C'est un spectacle à retrouver du 7 au 11 novembre en spectacle à Lyon. Ancien membre du groupe Thérapie Taxi, Zaoui nous offre avec Pulsation, son nouvel album, une expérience électrisante de rock pur et authentique. Dès les premières notes, on ressent une énergie contagieuse qui nous entraîne tout au long du voyage musical. Les rythmes puissants et les riffs de guitare incisifs sont au cœur de cet album, créant une atmosphère envoûtante qui ne laisse pas de répit. Les paroles captivantes et les mélodies accrocheuses de Zaoui s'entrelacent de manière magistrale, créant des chansons qui vont droit au cœur. Les thèmes abordés sont des textes semblant refléter une profonde introspection, ajoutant une dimension émotionnelle à l'ensemble de l'album. La production de Pulsation est impeccable, mettant en valeur le talent instrumental de l'artiste et offrant une clarté sonore qui permet à chaque instrument de briller. L'album se distingue par sa capacité à équilibrer les moments enflammés avec des instants plus mélancoliques, créant une dynamique musicale captivante. Dans l'ensemble, Pulsation de Zaoui est un ajout rafraîchissant à la scène rock. Il montre l'artiste explorant de nouvelles profondeurs tout en restant fidèle à ses racines rock. C'est un album qui mérite certainement une écoute pour les amateurs de musique qui cherchent à être transportés par des pulsations intenses et émotionnelles. Zaoui sera en concert à partir du 20 janvier 2024 dans toute la France. On écoute un extrait avec des seins.
J'attends du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, le destin. J'accroche mes rêves dans le noir, j'apprends à doucement les croire, j'apprends à doucement les croire, l'air de rien.
On enchaîne avec une recommandation cinéma, cette fois-ci, Le Consentement. L'adaptation cinématographique du livre bouleversant de Vanessa Spingora nous plonge au cœur d'une histoire dérangeante et marquante. Le récit autobiographique de Spingora, qui a fait grand bruit lors de sa sortie en 2020, dénonce l'emprise destructrice du romancier Gabriel Mazneff et les abus sexuels qu'elle a subis en tant que mineure. Le film parvient à recréer avec une grande intensité l'atmosphère glaçante et troublante des années 1980 à Paris, avec des détails et des similitudes qui renforcent le réalisme de l'histoire. Les prénoms identiques et les apparences similaires entre les personnages ajoutent un impact à l'histoire. Le Consentement ne se contente pas de restituer fidèlement l'émotion du livre. Il la transmet au public à travers des performances captivantes et une mise en scène soignée, en mettant en lumière les conséquences dévastatrices de l'emprise et de l'abus de pouvoir. Le film aborde de manière contagieuse des questions cruciales liées au consentement et à la manipulation et à l'éthique. Cette adaptation cinématographique offre une perspective visuelle sur cette histoire poignante et controversée, rappelant l'importance de donner la parole aux victimes et de remettre en question les normes sociales qui permettent de tels abus.
le consentement mérite d'être vu pour son traitement délicat et puissant de ces sujets sensibles.
Merci Vincent. Donc je vais vous parler de la sortie du film Les Voix Jaunes le 15 novembre prochain, accompagnant l'anniversaire des 5 ans du mouvement des Gilets jaunes. Sylvestre Imanzer, la réalisatrice, accompagnera les projections avec les actrices et acteurs du mouvement et du film. D'autres intervenants participeront aux rencontres afin de prolonger les réflexions et les échanges sur les questions politiques, économiques, sociales, environnementales, aussi bien qu'esthétiques de ces mouvements et du film. Vous voulez participer à ces projets? Merci de contacter Jonathan Vaudet au 06 65 42 27 02. Et une dernière information, il y a un rassemblement Gilets jaunes à Montélimar le samedi 18 novembre, rond-point du KFC, à partir de 10h pour l'anniversaire des 5 ans de ces mouvements. S'il n'y a pas d'autres informations, on vous dit donc notre prochaine émission dans un mois. Pour tous vos projets, contactez Fréquence 7. Merci.
Au mois de décembre.
Merci bien.
Au revoir.
Il était une fois, trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnés dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.